VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 4 octobre 2023, en direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Kevin McAfee, chef républicain de la Chambre des représentants, a quitté le perchoir hier. C'est une première dans l'histoire américaine. Comment en est-on arrivé là et quelle sera la suite de son départ? Nous ferons le point dans cette édition. En RDC, Moïse Katumbi est lui aussi candidat à la présidentielle de décembre prochain. Dans nos dossiers du jour, nous irons à Gao, dans le nord du Mali, où les populations ne savent plus que faire face à la flambée des prix. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Kevin McAfee, chef républicain de la Chambre des représentants, a quitté le perchoir hier. Une première dans l'histoire américaine. Yacouba Ouédraogo nous fait le point. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine. Vous l'avez dit, hein, Chambre des représentants cherche un nouveau président, une nouvelle présidente. L'histoire a été écrite hier, vous l'avez dit également. Et elle se raconte toujours aujourd'hui ici au Capitole. C'est une première dans l'histoire américaine. Le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été évincé de son poste, victime de querelles fratricides au sein de son propre parti. Pas grand monde autour du Capitole. La Chambre des représentants a suspendu ses travaux et va les reprendre mardi. Mais la tâche s'annonce quand même compliquée pour les républicains qui se réuniront pour se mettre d'accord sur un nouveau candidat dès mardi. Un vote devrait avoir lieu le lendemain mercredi.
Justement, Yacouba, comment se présente la suite des joutes au Congrès la semaine prochaine?
Rappelez-vous, Rosine, les députés avaient fait jusqu'à 15 rounds pour élire Kevin McCarthy comme président de la Chambre. Ce qui est sûr maintenant, ça sera un sans lui, puisqu'il dit ne plus se représenter, tout en affirmant que ce fut l'un des plus grands honneurs pour lui d'avoir été le 55e chef de la Chambre. Il avait été élu au forceps en janvier dernier en raison de la très mince majorité républicaine. Et pour accéder au perchoir, il avait fait d'énormes concessions avec une vingtaine d'élus ultra-conservateurs, dont la possibilité pour n'importe quel élu de pouvoir convoquer un vote pour le destituer, ce qu'a finalement fait Matt Gaetz, le député de la Floride. Dans un communiqué publié par la Maison-Blanche, le président Joe Biden a appelé les élus de la Chambre à élire rapidement un nouveau chef face aux défis urgents, dit-il, auxquels font face les États-Unis. Vous le savez aussi, le shutdown, la fermeture de l'administration fédérale, est en sursis jusqu'à mi-novembre, en attendant mardi pour la reprise des travaux de la Chambre basse. Eh bien, l'intérim est assuré par Patrick McHenry, député de la Caroline du Nord.
Merci, Yacouba. Le président de la Chambre des représentants, destitué par ses pairs pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président de la Chambre des représentants a été démis de ses fonctions par 216 voix contre 210. Face à une contestation de son propre parti, le républicain Kevin McAfee n'est pas parvenu à conserver son poste. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Catherine Gibson, correspondante de VOA au Congrès.
Speaker of the House of the United States House of Representatives.
Le représentant républicain Matt Gaetz a forcé un vote sur la destitution de Kevin McCarthy, exprimant sa frustration face au leadership du président de la Chambre, n'ayant pas pu adopter un projet de loi de financement du gouvernement avec les priorités des conservateurs.
Je pense que 33 000 milliards de dollars de dette, c'est le chaos. Je pense que faire face à un déficit annuel de 2 200 milliards de dollars, c'est le chaos. Je pense que ne pas adopter de projet de loi de dépenses sur un seul sujet, c'est le chaos.
Le républicain Kevin McCarthy.
Je peux continuer à me battre, peut-être d'une manière différente. Je ne me présenterai plus à la présidence.
Le président de la Chambre des représentants faisait l'objet de critiques croissantes depuis qu'il avait accepté un accord sur le plafond de la dette cette année avec le président Joe Biden. Le représentant républicain Bob Wood.
Beaucoup d'entre nous l'ont supplié à plusieurs reprises d'utiliser le plafond de la dette pour tirer parti des réductions des dépenses et des réformes. Au lieu de cela, il a négocié une augmentation illimitée du plafond de la dette.
Ce sont les votes des démocrates unis pour destituer McCarthy qui ont fait la différence. Les législateurs américains doivent organiser la semaine prochaine des élections pour élire le nouveau président de la Chambre des représentants qui remplacera Kevin McCarthy.
Kevin McCarthy a été victime de querelles fratricides au sein de son parti. Malgré ce qui apparaît comme une victoire des ultra-conservateurs, cette destitution ouvre une période de forte turbulence à la Chambre basse. Mohamedou Oumfa a joint Louis Balthazar, professeur retraité de l'Université de Laval au Canada.
De plus en plus, la démocratie américaine est sujette à la manipulation de minorités. Quand on conteste la direction de M. McCarthy, il est évident que les démocrates vont voter contre M. McCarthy parce qu'il n'est pas de leur parti. Les républicains sont normalement pour. Ils ont voté pour lui à 210 voix. Mais ça n'était pas assez dans l'ensemble du Congrès pour faire avaliser la présence de M. McCarthy comme président. Donc, ce sont 8 dissidents, tous des fidèles de M. Trump, qui reprochent à McCarthy d'avoir bien voulu s'associer avec les démocrates pour faire passer une motion qui empêchait la fermeture du gouvernement.
Quelles seraient les conséquences de cette destitution?
Dans les médias, c'est la paralysie parce qu'il n'y a pas de président. On va sûrement finir par élire un autre, mais cet autre président, lui aussi, sera victime de ces 8 troubles-fêtes. Alors, il n'y a aucune solution pour le moment. On va tâcher de s'en tirer à la pièce avec des compromis, ce sera très pénible jusqu'à la prochaine élection.
Vous pensez que l'ancien président Donald Trump, il en tire profit?
Oui, il en tire profit parce que durant sa campagne, il ne cesse de répéter que les choses vont très mal et tout ça, c'est la faute de Biden qui dirige mal le pays. Alors évidemment, que ça aille mal, que ça soit compliqué pour tout le monde, ça fait l'affaire de Donald Trump. Il va se présenter comme le sauveur, celui qui va rétablir l'ordre un peu partout dans le pays, notamment au Congrès.
Louis Balthazar, professeur retraité de l'Université de Laval au Canada.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, 2 jours après le prix Nobel de paix de Dr. Denis Mukwege, Martin Fayulu et comme Moïse Katumbi, de grands noms de l'opposition congolaise ont déposé aujourd'hui leur candidature pour l'élection présidentielle qui doit se tenir en décembre prochain. Le point avec Eddy Issango.
Accompagné d'une foule, l'opposant Martin Fayulu a déposé aujourd'hui sa candidature pour la présidentielle du 20 décembre. L'opposant posait jusqu'alors pour condition l'acceptation par la CENI d'un audit indépendant du fichier électoral. Il a déclaré au sortir qu'il espérait désormais plutôt obtenir la transparence par la vigilance électorale, comme ses revendications ne sont pas satisfaites. D'autre part, les partisans de l'Ensemble pour la République ont déposé la candidature de Moïse Katumbi avec des documents originaux. La veille, la CENI a refusé d'accepter les photocopies. À part des personnalités très connues, d'autres candidatures sont enregistrées. Le président Félix Tshisekedi va déposer sa candidature dans quelques jours.
La France n'est pas dans une logique de quitter le Niger, a indiqué le ministre nigérien de l'Intérieur hier, une semaine après l'annonce par le président français Emmanuel Macron du retrait d'ici la fin de l'année des troupes tricolores de ce pays sahélien. Le général de brigade Mohamed Toumba a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec des organisations de la société civile, syndicats, chefs religieux et traditionnels retransmises à la télévision nationale. Le régime militaire est engagé dans un bras de fer avec la France depuis le coup d'État de juillet qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, allié de l'ex-puissance coloniale. Celle-ci ne reconnaît pas les nouvelles autorités du Niger. L'ONU exprime son inquiétude après les affrontements meurtriers entre des soutiens des 2 principaux partis politiques au Libéria. Les troubles entre les partisans de l'ex-vice-président Joseph Boakai et ceux du chef de l'État George Weah ont éclaté vendredi dernier lors de la campagne pour les élections présidentielles et parlementaires qui auront lieu mardi prochain. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le Haut Commissariat aux droits de l'homme appelle toutes les parties à renoncer à toute incitation à la haine ou effusion de sang. Le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée est entré hier dans sa deuxième année à Conakry, où l'ex-dirigeant militaire Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux répondent de leurs actes. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
Le Fonds monétaire international a annoncé mercredi avoir validé la première étape du programme d'aide à destination de la Côte d'Ivoire, ce qui entraînera le déboursement de 500 millions de dollars après validation par son conseil d'administration. Le programme, qui avait été avalisé par le Fonds fin mai, s'étale sur 40 mois et représente un montant total de 3,5 milliards de dollars, donc 2,6 milliards de DTS. Un peu plus de 12 000 milliards de francs CFA, c'est le montant cumulé de la dette du secteur public camerounais à la date de fin août 2023, ce qui représente environ 43,7% du produit intérieur brut, en recul de 0,7% par rapport à fin juin 2023. L'information a été révélée le 28 septembre 2023 par le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Les militaires au pouvoir au Niger ont décidé de suspendre les exportations de GPL, entendez, gaz pétrole liquéfié, jusqu'à nouvel ordre, afin de privilégier l'approvisionnement national selon les documents officiels consultés ce mercredi. Le Niger a démarré la production de GPL en 2012 pour atteindre en 2020 un peu plus de 60 000 tonnes selon les statistiques officielles. Il est principalement utilisé dans le pays pour cuisiner. C'était la Minute Éco avec John Lindon pour VO Afrique.
Place maintenant en sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
La co-organisation du Mondial 2030 revient au Maroc, au Portugal et l'Espagne.
Oui, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines de football se sont accordées autour d'une candidature unique pour le Mondial 2030, présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec 3 matchs en Amérique du Sud. C'est l'annonce faite par la FIFA. Le centenaire de la Coupe du Monde masculine, dont la première édition a eu lieu en Uruguay en 1930, va donc unir 3 continents et 6 pays. Les détails avec Amin Birouk, notre correspondant sportif à Casablanca, au Maroc.
C'est un grand moment pour l'Afrique, un grand moment pour la symbiose des cultures et des civilisations, puisque le Conseil mondial de la FIFA vient d'accorder l'organisation de la Coupe du Monde 2030 à la candidature commune Maroc-Portugal-Espagne. Et en prévision des festivités du centenaire de la Coupe du Monde qui a vu le jour en Uruguay en 1930, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay auront le privilège de démarrer la Coupe du Monde sur le continent américain. Cela fera une candidature aux allures symboliques puisque pas moins de 3 continents pourront vivre cette fête du centenaire. Reste maintenant à déterminer comment seront dispatchées les rencontres entre les principaux pays organisateurs et de quelle façon l'Afrique pourra se distinguer. On rappelle que le Royaume du Maroc s'est présenté à 6 reprises pour l'organisation du plus grand événement du football mondial et que ses efforts, sa résilience, sa persévérance viennent d'être récompensés. Une énorme joie emplit tous les foyers marocains de Tanger El Guira. Évidemment, ce sentiment sera transporté lors des prochaines échéances et notamment lors de l'organisation de la CAN 2025 qui aura des allures de répétition pour le Mondial 2030. Le Maroc et l'Afrique sont honorés à eux de tenir le challenge de l'organisation de la Coupe du Monde et de réussir la plus belle compétition qui soit en accord avec leurs partenaires portugais et espagnols. Depuis Casablanca, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Suite des matchs de la deuxième journée en Ligue des Champions ce soir en Europe.
Manchester City, champion d'Europe en titre, est attendu sans crainte par Leipzig. Le PSG, sous pavillon qatari depuis 2011, va découvrir l'ambiance de St. James Park à Newcastle, devenue propriété 10 ans plus tard des Saoudiens. Demi-finaliste l'année dernière, l'AC Milan se déplace à Dortmund, qui doit se relever après son revers à Paris 2-0. Le FC Barcelone veut gagner à Porto, adversaire le plus renommé du groupe H. pour son 100e match sur le banc du Barça, Xavi pourra s'appuyer sur ses renforts portugais. Arrivé cet été, João Félix passé par le centre de formation de Porto et João Cancelo.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero, de retour avec vous. Passons à notre page magazine. Flambée des prix des produits de première nécessité à Gao, dans le nord du Mali. À cause de l'insécurité, les prix de certaines denrées sont allés du simple au double. Les populations de la région ne savent plus où donner de la tête. À Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Les prix des produits de première nécessité connaissent une augmentation vertigineuse sur le marché, à en croire les personnes interrogées dans la ville de Gao.
Aujourd'hui, vraiment, nous assistons à une montée, je ne sais pas comment qualifier de cette montée-là des prix. Le pot fait 1000 francs, ça c'est le riz. Si on prend le cas du sucre, 1 kilo fait 800 francs, demi-kilo 400. Donc au niveau des condiments aussi, c'est la même chose. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas les trois repas. Parce que 2500 ne peut pas faire l'affaire d'un seul repas. Nous sommes dans une situation très difficile. Ça, c'est un cri de cœur en tant que femme que j'adresse quand même à l'État malien.
Moi, je suis un ouvrier, on ne sait même pas comment on fait maintenant. Vraiment, tout est cher. Il y a beaucoup de gens qui ont même fait des commandes, ils ne viennent pas. Donc, nous sommes des ouvriers. Si la ville est chère, surtout nous, les ouvriers, là, qui voient les conséquences. Les laits, avant, c'était 2000 francs. Maintenant, c'est jusqu'à 2500. Les dates, avant, c'était 600 francs. Maintenant, les kilos, c'est 1000 francs. On ne sait même pas ce qu'on fait maintenant, vraiment.
Cette flambée des prix s'explique par l'insécurité grandissante dans la zone et les sanctions infligées au Niger par la CEDEAO. Najim Benzafat, commerçant grossiste à Gao.
Quand c'est cher, tu trouves. Ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il n'y en a même pas. Ça commence à disparaître, le produit de première nécessité. On ne peut plus amener des marchandises à partir de Sévaré par voie routière ni fluviale. Et par Niamey aussi, ça ne vient pas. Tout est bloqué. La CEDEAO a tout bloqué au niveau des frontières. Donc rien ne nous vient. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que les gros importateurs ne peuvent pas stocker. Quand ça arrive, il faut que tu vends. Il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. On a des partenaires avec lesquels on a des engagements. On a aussi des engagements avec nos banques. Donc nous, on ne peut pas traîner comme les détaillants. On ne peut pas quitter de Niamey pour venir à Gao. Si tu quittes Labzanga pour Ansongo, tu as des problèmes. Si tu quittes Ansongo pour Gao, tu as des problèmes. Et Gao, c'est vrai, là, il n'y a même pas la solution. On ne sait même pas ce qu'il faut dire, Gao.
D'autres raisons expliquent également cette augmentation des prix, dont l'absence d'un contrôle des prix par l'État du Mali. Al-Buhari Maïga, chef de famille à Aljana Bancha.
On est dans un trou, il y a problème. Tu sais, en matière de commerce, quand un commerçant n'est pas suivi par un État, il ne peut pas avoir un bon prix. Dès lors que les choses sont augmentées de 10 francs, 15 francs, 20 francs, il ne fait que ralentir la chose pour s'en bénéficier de plus. De la même manière que les choses viennent, les 90% sortent aussi encore.
Face à cette flambée des prix et des magasins qui se vident de plus en plus, la Chambre de commerce fait appel aux autorités. Boubacar Diko, premier vice-président de la Chambre de commerce de Gao.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons près de 60 pinasses stationnées à Tombouctou. Le plus bas tonnage fait 25 tonnes, sinon c'est de 25 jusqu'à 80 tonnes. Malheureusement, par manque de sécurité, par manque de scorte, ces opérateurs n'ont pas voulu prendre le risque. On a saisi il y a deux ou trois jours l'administration malienne à travers le gouverneur de Tombouctou pour lui dire de nous aider à trouver les voies et moyens, parce que ça ne va pas gagner. Nous-mêmes, responsables des opérateurs chambres de commerce, on se rend compte de ce qu'il y a. Il n'y a pas un import-export de la place aujourd'hui qui a un stock dans son magasin. Donc nous avons demandé seulement à l'administration, accompagnez-nous en sécurisant ces camions pour alléger un peu la souffrance de ces populations.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Un important convoi de l'armée malienne a quitté Gao lundi en direction de la région stratégique de Kidal, bastion de la rébellion séparatiste Touareg, qui a repris les armes contre l'État central. L'offensive serait lancée au moment où l'armée malienne est menacée dans le nord, entre Gao et Tombouctou, par une reprise des hostilités des groupes armés à dominante Touareg et une recrudescence des attaques djihadistes. Mouamadou Oumfa a joint Sékou Tangara, rédacteur en chef de la télévision Africable.
D'abord, il faut apporter une petite précision. Il n'y a pas eu de décision de Bamako de mener une offensive contre Kidal. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin dernier, le MINUSMA, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a décidé du retrait de la MINUSMA du Mali. Et dès lors que les casques bleus vont se retirer, il est prévu que toutes les emprises qu'ils occupaient soient rétrocédées à l'armée malienne. On a vu la rétrocession de Ber, et dans cette semaine, il y aura les rétrocessions de Kidal, de Agelok et de Tessalit. Et c'est dans cette logique-là que l'armée est en train de se déplacer vers ces zones-là.
Merci beaucoup pour cette précision très importante. Alors, comment est-ce que les Maliens réagissent à ces mouvements de troupes? Que dit-on dans l'opinion et dans la presse?
Bon, dans l'opinion, les commentaires, souvent, c'est beaucoup d'espoir. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui, de la part des personnes âgées, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à Kidal et autour de Kidal, on peut tranquillement mourir, c'est le commentaire de certains Maliens, parce que ils ont pensé que le Mali avait été humilié de Kidal, l'armée malienne avait été chassée de Kidal en 2014, et voir aujourd'hui l'armée revenir gaillardement, pour beaucoup de Maliens, c'est un motif de satisfaction, et c'est quasiment le principal sujet de conversation dans les administrations, dans les bureaux, et également les principales émissions au niveau des radios, c'est cette actualité qui est largement commentée aujourd'hui au Mali.
Oui, alors cette actualité est commentée, mais un mot peut-être sur les conditions de travail et d'accès dans cette zone. Comment vous faites pour avoir des nouvelles là-bas?
Bon, les nouvelles, elles sont quasiment... c'est dans un sens, c'est beaucoup plus la voie officielle... c'est l'armée qui communique à travers la direction des relations publiques des armées, la DIRPA, qui tient des conférences de presse régulières. Les autres bribes d'information, c'est sur les réseaux sociaux avec des personnes qui se trouvent dans ces localités-là ou qui ont des connaissances dans ces localités-là. Mais puisque ça appelle à la prudence, c'est souvent des informations qu'il faut prendre avec tact. Et les journalistes, dans cette situation de guerre, la plupart souvent préfère s'en tenir à la version officielle, à la version donnée par l'armée, même si souvent aussi on voit les ex-combattants, les ex-rebelles, c'est-à-dire les combattants de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui font également des communiqués sur les réseaux sociaux et souvent sur certaines presses occidentales.
Sekou Tangara, rédacteur en chef de la télévision Africable. Le Burkina Faso fait face au changement climatique et à la désertification. La région de Bobo-Dioulasso est l'une des plus boisées du pays, mais ses forêts sont agressées avec aussi une coupe abusive des arbres. Avec l'insécurité, certaines forêts sont en train d'être déboisées de crainte de servir de refuge aux groupes armés. Reportage de Alidou Ouedraogo.
La région la plus verte du Burkina, Bobo-Dioulasso, se bat pour préserver l'environnement. L'action de l'homme est la principale cause de sa détérioration. Parmi ces causes, l'activité minière et la crise sécuritaire. Le docteur Paulette Taïta est chercheuse au département environnement et forêt de l'Institut de recherche environnement forêt.
Le désert, on le sent venir petit à petit. Il y a beaucoup de causes que l'on peut répertorier. Par exemple, pour faire l'agriculture, il faut défricher des champs, donc il faut enlever des arbres. Il y a aussi, lorsqu'on fait les prélèvements pour les constructions, lorsqu'il y a la confection de routes, de plus en plus il y a l'exploitation minière, qui, les forêts sont de plus en plus envahies donc, par certaines forces dont on ne maîtrise pas toujours la provenance. Un important facteur qui participe au déboisement ou à la déforestation.
Et le docteur Taïta rejette toute idée de couper les arbres sous prétexte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
C'est vrai qu'il faut se protéger, mais il faut vraiment que nous protégions les arbres, il faut que nous protégions nos forêts.
Ancien député à l'Assemblée du Burkina, Moussa Zerbo était membre de la commission environnement. Il nous fait le point de la déforestation au Burkina.
Donc face à l'insécurité, quand la population quitte les lieux et que l'insécurité amène les gens à quitter les lieux, il va de soi que les agents aussi ne puissent pas rester à leur poste. Et de la sorte, il va de soi que leur absence laisse libre cours maintenant à ceux qui sont dans les parages de pouvoir piller impunément et de pouvoir couper le bois comme ils l'entendent. C'est un vrai danger et c'est une menace certaine et pour en tout cas notre environnement.
Pour Moussa Zerbo, il n'est pas question de détruire nos forêts à cause de l'insécurité qui vit le pays.
L'état de désertification est très avancé chez nous, c'est très très avancé, répondant directement aux sacrifices qu'on veut faire de nos forêts pour la lutte contre le terrorisme. Je pense et très sincèrement, nous allons nous retrouver dans une situation un peu compliquée.
Devant ces constats alarmants, certaines des populations semblent ne pas comprendre l'enjeu, comme Daouda Sanfo.
Bon, moi, je pense que c'est normal, puisque quand les terroristes vont aller se cacher dans la forêt, tant qu'on ne coupe pas les arbres, on ne peut pas les en avoir. Même en les bombardant, si les arbres sont tombés, il n'y a pas de problème. Après, on peut faire un reboisement des arbres. Sinon, en les laissant comme ça, ils vont nous envahir chaque fois, ils ne font que tuer. Finalement, nous tous, on va mourir et la forêt sera là. À quoi ça sert?
Selon le docteur Taïta, les effets du changement climatique ont commencé.
Donc, il y a l'érosion des terres que l'on constate. Il y a l'assèchement aussi de ces terres. Cela impacte donc sur le cycle de vie des ressources naturelles.
Le docteur Taïta a affirmé que plusieurs espèces animales sont en train de disparaître au Burkina. Halidou Ouédraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Conseil exécutif de l'Union africaine était réuni hier à Kigali pour établir les priorités de l'agenda 2063. Les pays africains travaillent également à atteindre les objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030. Alexandrine Ollongnon a rencontré en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission africaine économique des Nations unies pour l'Afrique.
Je suis optimiste, nous sommes optimistes en Afrique. La sommet du climat de Nairobi a sorti une déclaration de Nairobi qui est très forte, qui est très claire, qui positionne l'Afrique comme le continent solution pour grands problèmes des changements climatiques en Afrique, au monde en général. Donc c'est ça le message, c'est que l'Afrique reconnaître qu'il y a des ressources renouvelables et non renouvelables, qui peuvent aider tout le monde, tout le continent, à lutter contre le changement climatique. Donc, mais en même temps, nous sommes conscients que la route vers la mise en œuvre des ODD est une route qui est difficile. Il y a des problèmes structurels, y compris le problème d'accès au financement qui est disponible, qui est moins cher, etc.
On parle de l'horizon 2030, mais l'Afrique a elle aussi un autre délai, l'horizon 2063, une date que s'est fixée l'Afrique pour transformer le continent en une puissance. Où en sommes-nous pour ce délai, pour cet objectif?
Oui, bon, pour nous, les Nations Unies et pour l'Union africaine, on parle d'un cadre, c'est le même cadre, le cadre de développement, et deux agendas, l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Les deux agendas se complémentent. 70% des aspects des deux agendas, ce sont les mêmes. Donc ça veut dire que la mise en œuvre des ODD est une contribution vers la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et pour l'Afrique, en parlant des opportunités et pour la mise en œuvre de les deux agendas, en parlant de ce que l'Afrique représente. Nous avons les ressources naturelles, comme par exemple le soleil, les forêts, qui peuvent jouer un rôle très important pour la séquestration de carbone, par exemple, et pour l'accélération de la mise en œuvre d'énergies renouvelables. Là, l'Afrique a presque 60% de tout le potentiel d'énergie solaire du monde. Et nous avons les forêts dans le bassin du Congo et dans d'autres endroits en Afrique qui peuvent aider à la séquestration du carbone. Et donc, c'est tout ça qui nous donne l'espoir que lorsque nous sommes ensemble, que nous travaillons étroitement, y compris entre les Nations Unies et l'Union africaine, pour sans profiter de toutes ces ressources, l'Afrique pourrait aboutir à que l'agenda 2063 et l'agenda 2030 soient une réalité en Afrique.
Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission africaine économique des Nations Unies pour l'Afrique. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezello, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.